Long rebound. Steph, no timeout with six. At five, Curry for the lead.
Always. Les playoffs suivent leur cours et forcément on est là pour décrypter tout ça. Aujourd'hui, podcast spécial avec Chat et Antoine, on va parler des finales de conférence. Plus ça va, plus ça devient chaud. Je pense qu'en début de saison, si on nous avait mis un flingue sur la tempe et qu'on nous avait demandé de sortir les quatre finalistes de conférence de ces playoffs de NBA 2024, je pense qu'on n'aurait jamais pu trouver les quatre d'un coup. Donc d'un côté, on aura les Indiana Pacers face aux Boston Celtics qui sont probablement la seule équipe qu'on avait vu venir dès le début pour participer à ces finales de conférence. De l'autre côté, on aura donc les Dallas Mavericks opposés aux Minnesota Timberwolves, deux demi-finales qu'on a hâte de voir débuter. Ça commence ce soir à l'Est. Shai, Antoine, petite question pour commencer sur l'aspect surprise. On va pas reparler du début de saison, mais même au début de ces playoffs, est-ce qu'il y a l'une de ces équipes que vous n'auriez pas du tout vu arriver jusque-là?
Franchement, Indiana, hein, parce que
okay.
c'est normal. Non, mais c'est unanime parce que Minnesota, si c'est l'autre surprise, faisait quand même une très bonne saison régulière et avait des arguments. On sentait qu'ils pouvaient au moins passer un tour. Indiana, avant qu'il y ait toutes les blessures des adversaires, même avec l'enthousiasme qu'on avait eu pour leur jeu pendant la saison, franchement, dire finale de conférence, c'était quand même. Fallait y aller quand même. Donc, ils sont très, très en avance sur le plan de marche. Voilà, on va en reparler, mais. C'est pour moi, c'est la surprise, ouais.
Puis il y a un vrai contexte, quoi. Je veux rien leur enlever. Hein. Je trouve que les Pacers ont des bons arguments. Et quand on parlera de la série contre Boston, vous verrez que je pense que Indiana peut poser des soucis aux Celtics sérieusement. Mais il y a quand même des circonstances. Ils ont joué Milwaukee sans Lillard et Giannis. Enfin, sans Giannis surtout et en partie sans Lillard. Ils étaient menés 2-0 contre les Knicks avant qu'Anunoby se blesse. Sans compter celle de Hart, la blessure de Brunson, etc. Il n'y a pas Randle, il n'y a pas Robinson, il n'y a pas Bogdanovic. Je pense que les Pacers jouent quand même d'une vraie situation favorable. Il y a des trucs intéressants. Maintenant, tu vois, les Hawks aussi, ils ont fait une finale de conférence. Et l'année où ils vont en finale de conférence, personne ne les voit venir. Et derrière, il n'y a plus rien derrière. Donc, après, Indiana, ce n'est pas forcément ce qui va se passer pour Indiana. Mais je pense qu'il y a un parcours qui s'explique aussi par la santé des adversaires. Et pardon, je vais finir là-dessus. Mais juste, par contre, c'est à leur honneur parce que quelque part, c'est une équipe qui se repose sur 10 joueurs, Indiana. Et bien, ça t'évite d'avoir des blessés en fin de saison.
Oui, puis c'est une équipe, au bout du compte, qui a été opportuniste, qui a su saisir les opportunités qui se présentaient. Il fallait quand même aller les prendre, ces matchs, pour une équipe qui est quand même grandement inexpérimentée. C'est quoi? C'est finalement Pascal Siakam, bien sûr, le joueur le plus expérimenté de l'équipe, ouais. Mais qui est arrivé tardivement dans l'effectif. C'est gros boulot quand même de Rick Carlisle, au bout du compte, je pense, sur la saison, sur les résultats. Alors, t'as raison, Antoine, la série face aux Knicks, on va pas revenir dessus. Il y a un contexte qui est vraiment particulier, je pense, qui était favorable à Indiana. Il y a quand même eu des ajustements intéressant dans le jeu et c'est une équipe, j'ai l'impression finalement on peut peut-être commencer par l'Est parce qu'Indiana, j'ai l'impression que ce qui est intéressant c'est que c'est une équipe qui est un peu multiforme et qui est en train de changer au fil de ses playoffs et d'affirmer j'ai l'impression que ils n'ont pas tout à fait la même identité de jeu complètement, du moins que durant la saison régulière ou même qu'au tout début des playoffs. J'ai l'impression que cette équipe elle est en train d'évoluer devant nos yeux.
Ouais, mais c'est logique parce que qu'au début de la saison, c'est logique parce que il y a quand même eu l'arrivée de Pascal Siakam, ça change de trois choses dans le jeu. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus adaptable, un peu plus mature et prête dans le jeu, moins tournée vers l'attaque à 2000%, même s'il y a encore des cartons offensifs, hein, ils sont toujours sur un rythme très très élevé. Donc je suis à la fois d'accord sur le fait que ça change et en même temps il y a toujours cet ADN d'équipe décomplexée qui met du rythme. Qui implique tout son effectif, c'est la profondeur de banc. Antoine l'a dit, c'est une équipe qui joue à 10 avec un banc très performant. Donc à la fois il y a la recette qui a fonctionné et quelques évolutions, une meilleure alchimie entre Pascal Siakam et les autres joueurs majeurs de l'équipe, notamment Ali Burton. Tout va mieux et c'est un talent de rester en bonne santé, c'est un talent de réussir à. Parce qu'on dit souvent que les playoffs et la saison régulière, ce n'est pas le même sport, on est assez d'accord là-dessus. Et des équipes comme ça, un peu surprises, qui ont une recette en saison régulière, parfois, elles se heurtent à un mur en playoff parce qu'elles ne peuvent pas l'appliquer à nouveau. Et là, c'est quand même une équipe qui continue. J'avais noté quelques stats, je vous les sors maintenant. Ouais. C'est une équipe qui est toujours ultra tournée vers l'attaque. et sur l'adresse offensive, c'est le meilleur offensive rating de tous les playoffs avec 121.7. Boston d'ailleurs est numéro 2 avec 118.9. C'est l'équipe qui prend toujours le plus de tirs par match sur ses playoffs, 87.8. Et c'est plus de 6 tirs de plus en moyenne que les Celtics. Et c'est aussi l'équipe la plus à droite de tous ses playoffs, 50.7 d'adresse globale et 38% à 3 points. Donc il y a toujours cette recette qui pour l'instant n'a pas été plus contrariée que ça, parce que même s'ils ont dû passer par 7 matchs contre les Knicks et un premier tour qui était pas si simple mine de rien malgré l'absence de Giannis, c'est une équipe qui arrive à être fidèle à ses idées et à jouer décomplexé, comme je le dis à chaque fois, sans pression. Ils n'ont pas la même pression que les autres équipes. Enfin, à mon sens, hein, eux peut-être se la mettent. Liberton n'arrête pas de dire qu'il n'a pas le temps, quoi. Il est là pour gagner tout de suite. Mais voilà, c'est une équipe qui est fidèle à ses idées, et c'est ce que j'aime bien aussi.
Non, je pense que l'évolution, elle s'est faite à partir du moment où il y a le trade de Pascal Siakam. Et si elle donne l'impression de continuer cette évolution, c'est sans doute parce que quelque part, il y a une alchimie qui se crée. Je pense qu'en fait, l'arrivée de Siakam, ça a forcé les Pacers à défendre un peu plus. Et il a fallu ce temps d'adaptation sur comment on défend plus tout en gardant nos points forts. Tu vois, et du coup, il fallait forcément réduire un petit peu le rythme, qui était complètement dingue, tout en gardant cette force dont parlait Shai, cette volonté de faire beaucoup de passes aussi. C'est un truc qu'on voit chez Liberton, c'est cette volonté de lâcher vite la balle. C'est une des équipes qui, je pense, marque le plus de paniers sur une assist et pas juste en... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui créent la différence tout seul. Même Liberton, ce n'est pas une superstar qui crée vraiment des différences balle en main. Au-delà, enfin, je veux dire, pas en drive, pas en dribble. Il a son petit step back à 3 points, mais voilà, c'est une équipe qui repose beaucoup sur la circulation de balle. Et quelque part, je pense que les mois depuis l'arrivée de Siakam et les playoffs et les tours de playoffs qui passent, je pense qu'en une série de playoffs, tu apprends plus qu'en 4 mois de saison régulière au final, parce que tu joues toujours le même adversaire, l'enjeu est différent. Voilà, je pense qu'on a cette équipe qui trouve de plus en plus son équilibre entre j'essaye de bien défendre. Et en même temps, je veux vraiment avoir ce truc de je joue vite, on est un peu foufou, on tire beaucoup, etc. Donc je pense que cet équilibre, il se trouve petit à petit. Et c'est, quoi qu'il arrive pour Indiana, c'est un parcours qui va apporter beaucoup aux jeunes Pacers. Et à qui il manque d'ailleurs Bénédicte Mathurin, parce que j'ai pensé de manière complètement random tout à l'heure.
Non, mais tu as raison, parce qu'effectivement, c'est cette profondeur de banc qui a... impressionnante chez les Pacers, c'est l'utilisation qu'en fait Rick Carlisle. Ce qui est intéressant, en fait, limite, je me dis que cette série face aux Knicks, c'était peut-être ce qui pouvait arriver de mieux aux Pacers, parce qu'ils ont pu se découvrir finalement une identité défensive qu'ils n'avaient pas eu trop l'occasion de développer jusque-là. On sait que Rick Carlisle est un excellent coach défensif, et là, on a pu voir des joueurs qui se sont mis en valeur, comme je pense à Rodney Smith notamment, qui a été énorme sur Jalen Brunson, qui a eu un vrai impact sur Jalen Brunson. Et là où j'ai l'impression que finalement, l'équipe a un petit peu changé. C'est-à-dire qu'on était un peu époustouflé toute la saison par les perfs d'Haliburton à la passe, avec des séries de passes complètement folles. On se demandait s'il n'allait pas faire un match à 20 passes, etc. Et finalement, ce qu'on retrouve dans ces playoffs, c'est que la balle circule plus, sans forcément qu'il y ait... Alors, bien sûr, Haliburton a son impact dans le playmaking, mais c'est ce que tu disais, Antoine, la balle circule beaucoup, en fait. C'est pas simplement Haliburton qui crée, qui lâche la balle pour un tir direct. Il y a une passe, puis une passe, puis une passe. Et là, j'ai l'impression qu'ils arrivent à une sorte de maturité qu'on n'avait pas forcément vue durant la saison régulière sur ces aspects-là et sur la confiance que les uns ont envers les autres.
Et sur l'aspect défensif, pour y revenir rapidement, donc c'est une équipe qui est estampillée équipe offensive, évidemment. Mais quand tu regardes le personnel, enfin les joueurs qui sont sur le terrain, individuellement, il y a des bons défenseurs. Alors, pas Haliburton en particulier, mais autour, tu prends Andrew Nembhard, c'est un bon défenseur. Miles Turner, c'est plutôt un bon protecteur de cercle. Hein. Il fait souvent des saisons dans le top, dans la dissuasion au niveau des contres. Aaron Nesmith, c'est un très bon défenseur. Pascal Siakam, c'est un super défenseur. Donc, au final, ils ont le monde, même en sortie de banc. McConnell, en disrupteur, il peut très bien être un poison défensif. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils aient réussi à garder cette parfois hallucinante capacité à attaquer fort. Là, le dernier match, ils mettent 130 points dans un game set au Garden, même si en face ils étaient cuits, ça reste pour moi très très impressionnant. En shootant, on l'a dit, à
une adresse historique,
67%, ouais. Et sur la première mi-temps, plus de 70%, ça a aucun sens. Mais c'est tout ça pour dire qu'ils arrivent à joindre ces deux qualités-là, et que ça va être une des... une des intrigues autour de cette série finale, parce que là, pour le coup, c'est Boston et c'est plus New York, c'est de réussir à jongler entre, à trouver le bon dosage entre cette force de frappe offensive et ce qui commence à devenir une des capacités défensives intéressantes, je pense.
Mais je pense qu'il y a une histoire de confiance. En fait, je me demande si les Pacers eux-mêmes se sentaient capables de bien défendre, et ça rejoint ce que vous dites tous les deux, et notamment aussi ce que tu dis, Théo, sur la série contre New York. Je pense qu'il y a un moment, ils se sont rendus compte, ah mais oui, en fait, on peut défendre. Après, il y a toujours la défense collective, c'est un peu particulier. Il peut y avoir et quand tu joues vite, tu te fatigues. Quand tu cours, tu peux avoir moins de lucidité, tu peux plus facilement oublier des rotations, etc. Puis ça demande, encore une fois, là aussi, beaucoup de vécu ensemble pour développer une défense collective, pour comprendre, déjà, pour respecter le côté de chaque rotation, et puis ensuite, pour comprendre quels sont les points forts de chaque mec à côté de toi. Tu vois, des fois, si tu sais que le mec juste à côté de toi, il est un peu plus lent, il faut que tu prennes un pas d'avance, etc. Il y a plein de choses qui se créent avec des automatismes. Mais je pense qu'à un moment, il y a une prise de conscience de « Ah, mais en fait, on n'est pas juste une équipe offensive. On peut être plus que ça. On fait partie de ces équipes capables d'être bonnes des deux côtés du terrain. » Ce n'est pas tout à fait le cas non plus. Hein. Ils encaissent encore 118 points sur 100 possessions sur ces playoffs. C'est une des plus mauvaises défenses. Mais il y a quelque chose, il y a des séquences. On sait que quelque part, c'est pas tant juste avoir une excellente défense, c'est déjà juste ne serait-ce qu'être capable de faire des stops. On a connu des grandes équipes offensives qui étaient incapables de faire un stop, et là tu sais que c'est mort, que ça jamais se traduira en playoff. Eux, voilà, au-delà de la est-ce qu'on est capable de très bien défendre, il y a ce côté, on est capable par moment de faire des stops, on a des joueurs capables de faire des stops, et à partir de là, nous derrière, on sait que si on fait un stop, on va courir comme des malades, on va shooter, et on peut tuer une équipe comme ça.
Ouais, alors on va peut-être venir au cœur de la série qui va les opposer aux Celtics. Ce qui est intéressant, c'est effectivement sur la saison régulière, on a les deux meilleures attaques de la ligue en termes, du moins si on prend l'offensive rating comme marque, avec Boston premier, Indiana deuxième. La grosse différence en saison régulière, c'était sur la défense notamment, parce que Boston était aussi dans le top 5 des meilleures défenses de toute la ligue, alors que pour trouver les Nuggets, il fallait vraiment creuser vers le bas dans le bas du classement. Je regardais, avant qu'on commence le podcast avec Antoine, on regardait un petit peu les affrontements entre ces deux équipes en saison régulière. Ce qui est intéressant, alors la première chose à noter, c'est que tous les affrontements ont eu lieu avant le trade, donc avant l'arrivée de Pascal Siakam du côté des Pacers, mais je m'attendais, tu vois, j'avais un petit peu oublié finalement ce que ça avait donné en saison régulière. Je m'attendais à ce que ça soit sens unique pour Boston. En fait, c'est plus équilibré que ça. Il y a 3 victoires pour Boston, 2 victoires pour Indiana. Première confrontation de la saison, c'était une rouste monstrueuse, victoire 155-104 pour Boston, mais c'était le quatrième match de la saison. Mais derrière, tout a été plutôt serré, avec notamment une victoire des Pacers durant le in-season tournament face aux Celtics. Donc c'est quand même des affrontements, même en saison régulière, qui ont été plus équilibrés qu'on aurait pu le croire, vu le classement final de ces deux équipes.
Ouais, mais je pense d'ailleurs que ça reflète bien l'impression qu'on a partagée entre nous, mais qu'on n'a pas encore forcément dévoilé là, mais que c'est une série qui sera peut-être plus serrée que ce à quoi les gens peuvent s'attendre. De base, Boston, depuis le début de la saison, on les attend en finale de conférence. Encore plus depuis la fin de la saison régulière, encore plus depuis le début des playoffs, on a vu le tableau forcément s'ouvrir encore plus devant eux. Quand ils ont vu que ce serait les Pacers, je pense que tous les fans des Celtics ont été plutôt rassuré, plutôt que de se manger les Knicks et leur dureté, voilà, tout ça. Mais je pense que c'est une série plus ouverte qu'il n'y paraît. En tout cas, ça ne va certainement pas être une promenade de santé. Déjà, pour les raisons qu'on a évoquées là, sur le rythme que sont capables de mettre les Pacers. Boston n'a pas été trop mis en difficulté dans la série précédente. Tout de suite, se manger une équipe qui court autant et qui va mettre autant de rythme, ce n'est pas forcément un cadeau. Et s'il y a cette confiance sur laquelle ils arrivent à surfer en termes offensifs, tout en étant à nouveau efficace défensivement, attention quand même. Et puis, la question Porzingis, qu'on devra évoquer à un moment, parce que ça, lui, a été une des raisons pour lesquelles les Celtics ont fait une aussi belle saison. Et a priori, il va pas débuter, enfin, il débutera pas cette série.
Voilà, juste une petite info avant que je te laisse la parole, Antoine. Donc, ouais, Porzingis qui devrait au minimum manquer les deux premiers matchs de la série. Visiblement, ce n'était pas impossible qu'il revienne dès le match 3, même si ça semble quand même un peu prématuré.
C'est marrant, les étiquettes, parce que depuis le début, je comprends, mais je trouve ça erroné de penser que les Knicks auraient été un, Je sais que c'est pas ce que tu dis, Shai, d'ailleurs, hein, mais j'ai souvent lu ça. Ah, quand les Celtics vont jouer les Knicks, ça va être beaucoup plus compliqué. Franchement, c'est marrant comment on rapporte la. Ah là, parce que les Knicks sont du cœur, on fait une passerelle avec des durs, donc ils jouent dur, donc ils défendent dur, donc ils imposent un défait physique, donc ça va être dur pour Boston. Et moi, j'ai pas cette vision-là, en fait, d'une série Celtics-Knicks. J'ai pas l'impression. Par exemple, les Knicks. C'était aussi une équipe qui jouait vite au final. C'est une équipe qui voulait jouer offensivement en fait. C'était pas forcément une grosse équipe défensive. Oui, il y a du cœur avec Hart. Ça défend aussi, bien sûr qu'il y a des mecs qui défendent. Tu vois les DiVincenzo, les Adunobi, ils se battent, etc. Mais j'ai pas l'impression que les Knicks c'était la guerre des tranchées façon années 90. Genre on prend 80 points. Tu vois, c'était pas ça l'équipe des Knicks. C'est pas ça l'équipe des Knicks. Je sais qu'il y a Thibodeau, mais c'est pas non plus une machine défensive cette équipe de New York. Et surtout dans la configuration actuelle, vu le nombre de blessés, en fait, surtout s'il n'y a pas Anunobi, mais jouer New York aurait été, je pense, honnêtement plus simple, surtout quand tu n'as qu'un seul danger offensif, vrai danger offensif identifié, et que dans ton backcourt, tu as Derrick White et Jrue Holiday. Je pense vraiment que les Knicks auraient été un match-up plus simple pour les Celtics que les Pacers. Bon, après, ça, c'est une petite parenthèse, on ne saura évidemment jamais. Les Knicks diminués, hein, j'entends bien sûr. Les Knicks au complet, c'est autre chose. Et oui, du coup, pour les Pacers. Ça va être intriguant d'avoir une série potentiellement portée sur l'attaque, de voir qui sera le plus adroit. Je reviens sur Derrick White et Jrue Holiday. Ça fait encore pareil, deux mecs qui peuvent potentiellement aller gêner la tête du serpent. Est-ce que les Pacers vont chercher du coup à faire passer beaucoup de jeux par Siakam? C'est des questions que je me pose. Mais voilà, juste voilà, ça m'a fait réagir ce truc de dureté. Je pense aussi effectivement qu'Indiana peut faire courir Boston, peut fatiguer Boston, peut surprendre Boston. On a vu que les Celtics, c'était aussi une équipe qui a tendance à se relâcher par moment. Game 2 contre Miami, ils avaient gagné le Game 1 tellement aisément que le Game 2, ils ont complètement relâché. Pareil, exactement la même chose, série contre Cleveland. Je pense qu'il y a un moment, Indiana, ils sont au complet, ils ont un banc. Les Cavaliers, ils n'étaient pas au complet, ils n'ont pas le même banc. Tu vois, tu ne peux pas te permettre. Les Pacers, pendant 48 minutes, ça joue de la qualité parce que tu as ton 5 majeur, et derrière, tu as T.J. McConnell qui, je me permets de doubler la mise là-dessus, je l'avais déjà dit sur un CQFR, je trouve que c'est le boss, en fait. Je trouve que c'est lui le boss des Pacers. C'est très bizarre, j'ai jamais vu une équipe dont le boss, c'est le meneur remplaçant, mais pour moi, c'est leur général. Et d'ailleurs, sur ce Game 7 contre New York, Indiana avait 20 points d'avance, New York revient à 7 points sans Brunson, tu peux te dire que ça commence à paniquer. Qu'est-ce qui se passe? McConnell, Kemba, il revient, il prend les choses en main, Indiana passe un 15-4. Et du coup, Indiana, ça va jouer sérieux pendant 48 minutes. En tout cas, ça va jouer intensément parce que ce ne sera pas forcément toujours sérieux. Tu vois, il y a des moments où il y aura des coupes dans le dos, des trucs que les Pacers vont se prendre, mais ça va jouer intensément pendant 48 minutes. Et les Celtics vont devoir matcher ça. Et pour l'instant, Boston n'a pas vraiment eu besoin de le faire, je pense, sincèrement. Et là, il y aura peut-être. Voilà, c'est les finales de conf. Il faut que tu sois capable de passer un peu un cap individuellement, mentalement dans ta tête en termes de niveau de jeu, en termes d'intensité. Si les Celtics ne le font pas rapidement, tu peux te retrouver sur une série qui a 2-2. Tu vois, il peut y avoir 2-2 avant le Game 5 et là, d'un coup, tu as une pression. Tu as une pression de gagner le Game 5 alors que les Pacers, il n'y a pas de pression. C'est en mode, ah ben, on est à 2-2 avant le Game 5. Vous vous rendez compte, on est à deux matchs des finales NBA. Tu vois, il peut se passer des choses dans la tête et les Celtics vont devoir jouer d'entrée. Et comme vous l'avez dit, il n'y aura pas Porzingis.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est intéressant que tu parles de McConnell parce que je trouve que c'est ce qui permet aux Pacers. En fait, les Pacers, ils sont toujours sur l'offensive. Parce qu'en fait, alors Haliburton et TJ McConnell ont deux styles de jeu complètement différents, mais c'est deux joueurs qui, à leur manière, offensivement, mettent un rythme et une pression sur la défense qui est non-stop. Et tu fais très bien de noter les sautes d'humeur de Boston parce qu'en fait, tu as l'impression. Là, vu comme le tableau s'est ouvert quand même, sans vouloir faire offense aux autres équipes de la conférence Est, tu te dis, bon, bah finalement, Boston est vraiment son propre ennemi potentiel, quoi. T'as l'impression qu'il n'y a que les Celtics qui peuvent stopper les Celtics. Et c'est vrai que c'est cette. Ce qui fait un petit peu peur avec cette équipe de Boston, mais c'est peut-être parce qu'elle n'a pas encore été suffisamment testée jusqu'à présent, c'est les moments où tu ne comprends pas pourquoi ils baissent de pied, baissent de rythme. Tu as noté les deux matchs là, des deux premiers tours qu'ils ont joués où il y a un moment tu ne les reconnais même plus. Et là, face à une équipe comme Indiana, tu peux te faire sanctionner, sachant que c'est une équipe qui est surprenante de par sa longueur de banc. Dans le match 7 des Knicks, ce qui a tué les Knicks, c'est de voir Nesmith mettre des tirs durs en sortie de dribble, voir Neymar mettre ses tirs en sortie de dribble ou en création. Il y a un moment, C'est pas pour faire. On parle de beaucoup de défense dans la réédition du dernier MOOC là. Et l'une des questions qui revient à chaque fois qu'on parle de ces, enfin qu'on se pose la question, c'est quoi la défense ? C'est tout le monde nous dit bon bah de toute façon tu peux pas tout arrêter dans une équipe. Tu faut que tu choisisses ce que tu vas arrêter. Et quand t'arrives à arrêter ce que tu voulais arrêter, mais que derrière tu manges parce que c'est les remplaçants ou les mecs où tu t'étais dit bon bah eux on va les laisser prendre leur tir ou ça, ce secteur du jeu on va le laisser ouvert et que tu commences à prendre l'eau par là, c'est là que tu te retrouves un petit peu sous les vagues. Alors je dis pas que Boston n'a pas les ressources. Bien sûr, pour passer cette équipe d'Indiana, mais je te rejoins, Antoine, sur le côté il faut faire attention. Et moi, j'attends en fait ce que j'attends en fait de Boston, c'est de vraiment mettre une marque d'entrée de jeu sur la série. Ils ont très bien fini leur série face aux Heat, très bien fini leur série face aux Cavs. La question on se pose pas, voilà, ils ont su se réveiller. Mais il y a un moment, tu dis, bon, mais est-ce qu'ils ont toujours besoin de se réveiller quoi? Est-ce qu'ils peuvent pas mettre vraiment leur empreinte tout de suite sur la série? Au-delà du premier match, bien sûr, ça va être le challenge de ce premier match qui se joue ce soir.
Il n'y a pas de line-up vraiment faible de la part des Pacers. Carlisle fait un très bon travail pour associer. T'as suivi avec le second unit, avec Siakam qui est toujours sur le terrain et qui c'est redoutable, hein, avec McConnell en chef d'orchestre. Et puis t'as des joueurs qu'au final, que le grand public ne connaît pas bien. Ben Shepard, il fait aussi des belles apparitions. Même des joueurs, pareil, j'ai d'autres joueurs moins connus, mais Isaiah Jackson, Obi Toppin qu'on avait vu au Knicks, mais ça met toujours de l'énergie, ça joue toujours, et c'est en ça que Boston va être testé, parce que cette faculté à être constant et à tout de suite à imposer sa loi, ça va être très très important, parce que les Pacers ne vont pas leur laisser l'occasion de tergiverser, je pense. Hein. C'est ce qui les rend menaçants, ce banc, moi, en début de saison, on n'avait pas forcément vu venir cette longueur de banc. C'est en ça que c'est surprenant aussi. Et l'ajout de Siakam fait qu'ils ont tellement d'options différentes dans le jeu qu'ils sont vraiment redoutables. Donc après, c'est vrai que là, on a l'impression que, alors, oui, on considère que les Pacers sont plus dangereux qu'il n'y paraît. Je pense qu'il faut quand même dire que Boston a largement les faveurs des pronostics. Et a priori, on pense tous les trois, je pense, que les Celtics vont passer. Juste quand on avait lu ici et là, c'était bon, ça va être un sweep. Les Celtics vont arriver en finale avec des chaussons. Ça, non, je pense pas. Par contre, je pense que les Celtics vont vraiment devoir s'employer. Tatum, Brown et les autres vont devoir faire vraiment des prestations très, très sérieuses et c'est pas gagné du tout.
Ouais, parce que c'est vrai que pour rester encore un petit coup sur Indiana, ça a été leur grande force, finalement, leur longueur de banc, le fait que les mecs se montrent au niveau. Mais on sait que c'est parfois aussi la limite en play-off, parce qu'à un moment, t'es pas remplaçant ou t'es pas un joueur de rotation complètement par hasard en NBA. Et c'est ce qui fait la différence entre les runs historiques comme je pense aux Mavericks de 2011 qui vont et qui finissent champion NBA. Bah, ils le font parce que finalement les Deshaun Stevenson ou même les Peja Stojakovic en pré-retraite avec le déambulatoire, bah, ils ont réussi à être performants encore loin dans la saison, tard en playoff. Et c'est pas forcément une garantie en fait. Et donc on parlait tout à l'heure des remplaçants de ces joueurs de rotation d'Indiana qui sont exemplaires jusqu'à présent. Là, face à cette équipe de Boston, si les Pacers effectivement veulent avoir une chance, il va falloir que ces joueurs-là aient le rendement habituel, parce qu'on sait quand même que Indiana aussi va se confronter à une équipe qui est, même s'il manque Porzingis, qui est plus forte en l'état que celle qu'elle a affrontée jusqu'à présent, tout simplement parce que on va pas revenir tout le temps, mais pas de Giannis au premier tour face aux Bucks, et puis une équipe des Knicks qui s'est vraiment bien battue, mais au bout du compte, voilà, qui était trop diminuée pour pouvoir exister complètement.
Il y aura un super duel entre Peyton Pritchard et TJ McConnell. C'est vrai que pour ça, les deuxièmes cartons vaudront le coup d'œil.
Tu te demandes qui va gifler l'autre en premier.
C'est trop. Il faudrait juste les laisser jouer en un contre un. Et tu sais, juste à un contre un, et on détermine au moins deux matchs là-dessus. Tu vois. Mais juste la profondeur de banc, c'est sous-côté et sur-côté à la fois. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important d'avoir du banc. Tu vois, on peut le voir pour certaines équipes, les Suns, pas d'apport en dehors du banc, les Nuggets presque, tu vois, un manque un peu au-delà du sixième homme, il y a un vide. Mais en même temps, avoir 12 joueurs performants, ça ne sert pas non plus de ouf en play-off. Tu vois, c'est bien si tu as des blessés, parce que tu as des mecs qui du coup sont interchangeables, mais en vérité, en play-off, tu fais jouer 8 gars. Les Pacers, c'est presque une exception.
Tourne à 8, hein.
Exactement, ouais. Les Pacers, c'est presque une exception. Par exemple, les Timberwolves, ils font jouer 8 joueurs et ça suffit. Ils ont 3 bons remplaçants. Il faut avoir 3 bons remplaçants. Les Celtics sont 3 bons remplaçants. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a quelques minutes, je disais, ouais, les Pacers, ils vont jouer intensément parce que sur leur banc, direct, comme on l'a dit, tu vois, ça met tout de suite du rythme, ça maintient un certain niveau. Par contre, je suis d'accord, tu n'es pas remplaçant par hasard en NBA. Et ce que je veux dire par là, c'est que si tu es remplaçant, c'est qu'a priori, tu n'as pas toujours le niveau pour être titulaire. Les Celtics, et on en revient du coup, on en revient à Boston, si eux, ils jouent sérieux avec de l'intensité, Jason Tatum et Jaylen Brown, ça massacre quand même les remplaçants des Pacers. J'exagère avec le mot massacre, mais c'est pour dire, bah, c'est bien, ton banc, il est cool, mais nous, on laisse notre 5 majeur pendant 40 minutes et notre 5 majeur, il est beaucoup plus fort que ton banc. Donc, vas-y, fais rentrer tes Obi Toppin, TJ McConnell. C'est cool, ouais, salut, moi, c'est Jason Tatum. Enfin, tu vois, si tu as 4 All-Stars dans ton 5 majeur et que ton 5 majeur, il joue 40 minutes, tu t'en fiches qu'en face, ils aient un très bon banc qui va leur donner 20 bonnes minutes. Vu que de toute façon, tu vas avoir tes remplaçants que 8 minutes sur le terrain. Et en plus, les Celtics ont des bons remplaçants. Peyton Richard est un super joueur, Sam Hauser est un bon joueur, alors Ford se retrouve titulaire, donc ils n'ont pas vraiment un vrai top 8.
Ouais, c'est Luke Kornet après
mais
qui...
Voilà, c'est ça, c'est avec un peu différent, mais il a fait quelques bons matchs.
Oui, et puis il y a toujours sa botte secrète.
Ouais,
la Kornet, c'est quoi déjà?
Je ne m'en rappelle plus, je ne sais pas. Kornet Contest.
Kornet Contest, merci, voilà.
Mais bon, bref, tout ça pour dire que la profondeur, c'est cool. Mais si en face, tu as une équipe en bonne santé et qui est concentrée dans sa tête, qui est appliquée et qui se dit « Ok, là, on est en finale de conférence, on est obligé de jouer sérieux chaque possession, ne serait-ce que pour se préparer pour les finales. » Parce que si tu es Boston et qu'effectivement, tu joues encore un peu avec le pied sur le frein, ok, peut-être ça passe. Je pense que ça passe encore contre Indiana. Je veux dire sincèrement, je pense même contre Indiana, même si… Il laisse un ou deux matchs en route, a priori ça passe.
Oui.
Mais par contre, si tu gardes cette habitude jusqu'à là, fin mai, début juin, tu as encore cette habitude-là, et d'un coup, 5 jours après, tu vas me dire que tu dois changer toutes tes habitudes, et dès le game 1, chaque possession compte, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il faut qu'il y ait une montée en puissance graduelle, parce que derrière, tu joues Minnesota ou Dallas, si tu n'es pas en mode d'entrée agressif, tu vas avoir l'impression de te prendre un coup de coude en pleine tête, quoi. Donc je pense que Boston doit vraiment sur cette série se dire, mais quel que soit l'adversaire, c'est le moment d'hausser notre niveau de jeu, pas seulement parce qu'on joue telle ou telle équipe, mais parce qu'on est en finale de conférence.
Ce qui va être intéressant à suivre aussi, c'est que finalement, ces équipes, alors, elles ont beaucoup de différences, mais un des aspects qui les rassemble, c'est quand même l'utilisation du tir à 3 points. C'est deux des équipes qui se servent le plus du tir à 3 points dans leur offensivement. Ce sont dans les équipes toujours en lice, ce sont les deux équipes les plus à droite sur ces playoffs dans le tir à 3 points. Donc il y a aussi cette donnée là qui peut rentrer en ligne de compte, c'est quelle équipe sera capable de trouver d'autres solutions si l'adresse à 3 points n'est pas au rendez-vous. Et on sait que pour Boston, encore une fois, je pense que Boston a toutes les armes pour être plus qu'une équipe simplement entre guillemets qui tire à 3 points. Je pense qu'elle a toutes les armes pour pouvoir avoir de l'alternance dans le jeu, mais ça sera peut-être une des données stratégiques un petit peu à observer, du moins en attaque, si le plan de jeu défensif d'une des deux équipes arrivait à vraiment gêner l'adresse à 3 points ou même la prise de tir de tir ouvert dans ce registre-là, voir qui sera le plus à même de s'adapter. Là, encore une fois, en théorie, ça devrait être Boston, je pense, par le profil des joueurs, tout simplement.
Bah oui, non, bah c'est ça. Hein. Je pense que là, sur cette adresse à 3 points, je regardais sur les derniers matchs, Boston continue d'en prendre beaucoup plus, même qu'Indiana. Ils ont continué d'appuyer de tirer ce levier-là, parce qu'ils sont capables de faire des choses assez irrationnelles là-dedans. Et même les joueurs de banc dont on parlait tout à l'heure, un Sam Hauser, on l'a vu faire des choses assez dingues à 3 points. Ils sont capables de tout. Je reviens juste à la question de Porzingis, parce que c'est au final, alors fort dans le 5, il y a quand même pire comme remplaçant, tu vois. Ils sont pas dans une situation où il te manque ton pivot titulaire et derrière t'as rien. Alors fort, c'est quand même un joueur extrêmement expérimenté qui était titulaire les autres saisons, mais attention quand même, parce que Porzingis, dans la dissuasion, dans la place qu'il prend, dans ce qu'il est capable de faire aussi offensivement, c'est une vraie différence. Alors peut-être qu'on peut si on est optimiste pour les Celtics, on peut se dire que ça comptera surtout en finale. Son profil, il sera déterminant en finale, quel que soit l'adversaire, et qu'ils peuvent théoriquement s'en sortir sans lui, au moins dans un premier temps. Mais il ne faut, je pense, pas négliger son absence, parce que ça a vraiment été un super recrutement, et il a fait des choses qui ont permis à Boston de finir sur ce bilan-là et d'être la meilleure équipe en saison régulière. Donc, qu'il manque 2 matchs, 3 matchs, j'aimerais bien, moi, personnellement, le voir revenir dans cette série, au moins, qu'il puisse se réacclimater, reprendre le rythme. Parce que c'est jamais facile aussi pour les joueurs de ce gabarit-là. Pour après être, si Boston passe, et Je pense que c'est logiquement ce qui devrait se passer pour qu'il puisse être l'un des éléments les plus importants au moment de disputer les finales.
Ouais, bah, je pense qu'effectivement, dans ce qu'on dit depuis le début sur cette série, c'est en prenant en compte le fait que Porzingis manquera au moins deux matchs. Ouais. Je t'avoue que si Boston était au complet au départ de cette série, j'aurais pas tout à fait le même avis sur le profil de la série. Effectivement, ça va être vraiment une des données à suivre. Ce qui est hyper intéressant avec Horford, là où c'est le luxe en fait de Boston, c'est qu'il a vraiment cette capacité à pouvoir sortir sur des grands shooters et venir et en même temps tu peux changer avec lui. Et finalement c'est une équipe de Boston qui, même sans Porzingis, alors elle est pas immense dans le sens où t'as qu'un vrai grand, finalement c'est Porzingis, mais derrière tu peux continuer à changer sur quasiment tout sans perdre. En fait il y a jamais un mauvais défenseur, en tout cas avec le 5, même avec Al Horford t'as aucun mauvais défenseur sur le terrain. Ça reste voilà l'atout majeur défensivement de cette équipe de Boston. Ce qui va être intéressant quand même, c'est malgré tout, c'est sur la dimension athlétique. Voilà, tu parlais d'Obi Toppin, c'est un joueur, je pense, qui peut vraiment avoir un rôle à jouer parce que il apporte cette dimension physique athlétique en sortie de banc qui est vraiment intéressante, que Boston n'a pas pour le coup en sortie de banc. C'est quelque chose qui est plutôt à l'avantage d'Indiana, je pense, sur la capacité à, même avec les rotations, à, on en parlait tout à l'heure, à garder ce rythme athlétique de toujours jouer la relance, toujours jouer pousser, être sur l'offensive. Ça va être à suivre. On peut peut-être se prêter au jeu des pronostics.
Ouais, je voulais vous le proposer.
Vas-y, bah non, Antoine, alors vas-y. Tout seigneur, tout honneur.
Bah, 4-2 Celtics.
Chai.
Je voulais faire le même score, mais j'ai pas envie de faire comme Antoine, quoi. C'est pas bon, ça.
C'est pas bon, ça.
Alors, allez, un 4-1 serré, alors, tu vois. Un 4-1 serré, parce que je me dis quand même que le pauvre... Enfin, ça va être un vrai test, d'ailleurs, on va pas vraiment parler, mais c'est un vrai test pour Haliburton... ce qu'il va se manger en défense, il se l'est jamais mangé, encore moins évidemment sur une série de playoffs parce qu'il découvre ça. Mais je relis l'idée d'Eric White, ça va être quelque chose. Donc je pense que ça va être difficile pour lui quand même. Donc allez, ouais, 4-1 pour Boston.
Ouais, c'est dur. Bah, je vais dire 4-2 aussi comme Antoine, ça allait être mon pronostic du début. Je vais rester là-dessus. C'est un pronostic un peu optimiste, comme, malgré tout, je pense, pour Indiana. Voilà, par contre, ça va être intéressant. Je me serais pas dit, si on m'avait dit bon, bah, il va y avoir Boston-Indiana en finale de conférence au début des playoffs, ça va être une boucherie, on peut plus direct passer à la finale. Je pense que la série peut vraiment être intéressante. Et encore une fois, ce que je savoure particulièrement dans ces playoffs 2024, c'est on en a déjà parlé de la différence d'arbitrage entre ces playoffs et la saison régulière. C'est vraiment, les défenses ont repris une importance majeure dans ces playoffs et ont forcé à des ajustements de match en match. On voit l'importance que les ajustements ont. Et cette série entre Joe Mazzulla et Rick Carlisle, même de ce point de vue-là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On bascule un petit peu sur l'Ouest. Je vous avoue que là, c'est vraiment la finale. Alors, je trouve que c'est forcément, des deux, c'est quand même la série la plus indécise. Enfin, je ne sais pas, vous allez me donner votre avis là-dessus. Quelques données assez intéressantes, c'est que pour le coup, les enseignements de la saison régulière ne servent à rien du tout, parce que chaque fois que ces équipes se sont jouées, c'était avant les trades de février. C'est-à-dire que les Mavericks, pardon, n'avaient pas du tout la même équipe que celle qu'ils ont actuellement. Et même sur leurs quatre confrontations, le duo Luka Doncic-Kyrie Irving n'a joué qu'un seul match, un seul des quatre matchs qui ont opposé ces deux équipes. Donc vraiment dur de servir de la saison régulière pour tirer des enseignements. Ce qui est intéressant malgré tout, je pense qu'on peut commencer, parce que je parlais de défense pour la série à l'Est, c'est la transformation défensive de Dallas après le trade, et la transformation aussi athlétique et en taille. On a vu, je trouve, dans la série face à OKC, que finalement la taille de Dallas a fini par peser beaucoup dans la série face à OKC. Là, on se retrouve avec un encore une fois, en termes de taille, peut-être la taille au-dessus en ce qui concerne les Wolves. Quel est votre sentiment au sortir de ce match 7 incroyable de Minnesota et quant à la série qui s'annonce face à Dallas?
Ouais, je reste peut-être trop sur un peu sur le choc de la victoire des Wolves et sur ce qu'ils ont montré. Parce que je répète que en termes défensifs, je crois pas avoir vu une série d'un tel niveau de la part d'une franchise depuis peut-être ce que faisaient les Pistons à une autre époque. Hein, mais en 2004, je trouve que c'était sidérant quand ils ont été capables de museler une équipe aussi forte comme ça. Donc je sais pas, j'ai l'impression que Minnesota, même avec les progrès que tu as évoqués en défense, du côté de Dallas qui sont réels. Hein. Les changements opérés en cours de saison ont été très bons. Leur dernier match contre Casey est excellent. L'apport de joueurs comme Lively, Derrick Jones, c'est des joueurs qui arrivent à amener ce surplus défensif qui, moi, m'inquiétait en début de saison. Je suis trop choqué par ce que montrait Minnesota pour me dire qu'ils n'ont pas cet avantage-là en défense. On va discuter de l'attaque. Je sais qu'Antoine, on en a discuté ensemble. Tu es toujours un peu sceptique sur certaines périodes où les Wolves sont parfois incapables de... Enfin, semble-t-il, hein, incapables d'attaquer correctement. Mais j'ai une vibe d'une équipe à la Pistons qui est capable de défendre à mort et puis d'alterner en attaque. Un soir, ce sera toi, un soir, ce sera moi. Et c'est ce qui fait que j'ai l'impression, on parlera des pronostics après, mais que dans mon esprit, Minnesota part avec une petite longueur d'avance, surtout avec ce qu'ils viennent de faire là, en fait.
Ce que je trouve intéressant sur cette série, c'est qu'au final, il y a deux équipes qui n'ont pas tout à fait le même make-up, mais qui ont quelques aptitudes similaires, justement parce que les Mavericks ont fait des trades, en fait. Le côté athlétique, là, s'imagine cette équipe des Mavs sans PG Washington et Daniel Cafford, faut qu'elle se trempe les testicules dans l'eau chaude avant d'aller affronter les Timberwolves parce que tu vois, d'un coup tu te dis, ah mince, on n'a pas de guerrier très costaud pour aller scoltiner les Golgoth de Minnesota. Et là, du coup, les Mavs, il va y avoir du vrai répondant des deux côtés et ça promet une série avec deux sacrées défenses, deux sacrées équipes athlétiques grandes. Oui, il y a un avantage de taille pour Minnesota au niveau des intérieurs. Au niveau des intérieurs seulement, parce que justement, il a cet avantage, il n'est pas au niveau des extérieurs. Ça crée une balance entre les deux équipes. C'est pour ça que je dis qu'elles n'ont pas tout à fait le même make-up. Les extérieurs des Mavs sont plus grands et les intérieurs des Timberwolves sont plus grands, mais les deux équipes sont d'abord tournées sur la défense avec des vraies qualités athlétiques. Après, il y a une différence, les Mavs ont deux maestros, etc. Mais ça, rien que sur ça, ça nous promet une série vraiment, vraiment très, très, très intense physiquement. Là, c'est la dureté, tu vois. Au passage, j'ai regardé, je suis vraiment têtu, mais je suis allé regarder les Knicks, c'est la pire défense des playoffs. Hein. C'est 120 points encaissés en playoffs. C'est la pire défense des playoffs, 120 points, j'y ai pensé, je voulais regarder du coup. Mais bref, là, je pense qu'on aura vraiment une série très dure, très intense. Et ce qui m'intrigue, c'est... Parce que sur le papier, il y a quand même un truc, c'est vrai que tu as McDaniels et Edwards, tu te dis, bah, ok, ils ont Kyrie et Luka, mais on a, pour chaque mec, on peut mettre un stopper. Mais je pense que ça ne sera pas tout à fait la vraie vérité. C'est trop simpliste, en fait. J'allais commencer par ça, mais je me dis, non, mais c'est trop simpliste, parce que ça ne va pas se passer comme ça. Tu vois, même quand au final, Luka, il avait Dort sur lui, mais il s'en fout parce qu'il prend un pic. Donc, il n'a jamais Dort sur lui, vraiment. Et même quand il a Dort sur lui, bon, il s'en fiche, tu vois. Mais l'idée, du coup, ce qui m'intéresse entre ces deux très bonnes défenses, c'est de savoir qui aura la meilleure défense collective. Et je pense que c'est ça qui va en partie faire la série. C'est un des points marquants de la série. C'est laquelle de ces deux équipes, et je donnerai peut-être ce petit avantage au Timberwolves sur ce point-là, laquelle de ces deux équipes va être la plus disciplinée défensivement, va être le mieux dans les aides. Parce qu'il y aura constamment une bataille tactique. Bon, bah non, je suis Luka Doncic, pourquoi j'attaquerais sur Jaden McDaniel si je peux attaquer sur Rudy Gobert ou Karl Anthony Towns surtout ou Mike Conley, tu vois, pourquoi je... Donc il y aura une vraie bataille tactique, il va y avoir beaucoup de rotations à faire et j'ai hâte de voir ça, de savoir laquelle sera la plus disciplinée dans ces rotations, laquelle aura le plus de rigueur à ce niveau-là. Pareil du côté des Mavs, est-ce que Kyrie et Luka vont garder cette rigueur qu'il y a eu justement sur le tour précédent? Tout ça, c'est un des points clés de cette série.
Ouais, ça va être hyper hyper intéressant. Moi, en fait, quand je pense à cette équipe de Dallas, et je pense que c'est ce que je vais regarder en premier, je pense, dans la série face aux Wolves, c'est chaque fois que Dallas a mis du rythme dans ses playoffs, je les ai trouvés impressionnants. J'ai trouvé que c'était une machine de destruction, et je pense que face à cette défense de Minnesota, si Dallas veut avoir une chance, il va falloir qu'il garde un rythme offensif élevé, jouer la relance et pas attendre de jouer, pas commencer à jouer comme si c'était les deux dernières minutes du match dès le premier quart temps. Et c'est là qu'il y a vraiment, je pense, une option à jouer pour Dallas. D'un point de vue défensif, ce que je trouve intéressant pour Dallas par rapport à ce que pouvait proposer Denver, c'est que, et ça va rejoindre ce que tu disais, Antoine, c'est que En termes de playmaking, clairement Dallas est au-dessus, je pense, avec son monstre à deux têtes, Luka Doncic, Kyrie Irving. Et ce qui est intéressant, c'est que Dallas a des bons défenseurs, mais qui sont costauds et qui sont grands, en fait. Ce que finalement, Denver n'avait pas tant que ça. Il n'y a pas tant que ça. Et je pense que Dallas a plus de joueurs, finalement, à même de venir perturber et Anthony Edwards et Mike Conley par leur physique, par leur taille, par leur longueur. Et je pense que cette équipe des Wolves, effectivement, à l'inverse, on va revenir à ça, ce qui a été sa limite longtemps, c'est est-ce qu'ils trouveront suffisamment de playmaking pour pouvoir sanctionner la défense régulièrement, sachant que voilà, la défense des Mavs, elle était hyper impressionnante durant tous ces playoffs, et j'ai l'impression qu'elle a été se bonifiant en fait au fur et à mesure, et que même finalement au début, on était bluffé dès le premier tour de se dire putain, Kyrie et Luka défendent dur. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu devenu une habitude, en fait. Tu vois, sur les derniers matchs de la série, bah, ils ont défendu dur, mais ça me sautait plus aux yeux comme au début, parce que c'était y a des habitudes de jeu et de défense qui se sont mises en place. Donc ça va vraiment, comme tu le disais, Antoine, ça va être hyper intéressant d'un point de vue tactique, stratégique. Je pense que pour Dallas, il y a vraiment une chose importante sur le rythme. Voilà, commencer en mettant du rythme, et on en revient un petit peu à l'état de forme de Luka Doncic. Ça avait l'air d'aller un petit peu mieux sur la fin de série précédente. Là, il a eu quelques jours de repos parce que voilà, ils ont fini en 6, et puis derrière, les Wolves ont poussé leur série en 7. Ça va être déterminant, parce qu'on a bien vu hein, que sur les 2-3 premières minutes, sinon, il était très en jambes, et après, il y avait un vrai coup de mou souvent. Sur mon milieu du deuxième quart-temps, un vrai coup de mou de Luka, et puis à la fin, il remontait un petit peu. Voilà, là, ça, c'est vraiment les signes que je vais regarder en premier dès le début, dès le game 1, qui se jouera dans la nuit de mercredi, si je ne me trompe pas.
Ouais, et sur les difficultés offensives théoriques pour les Wolves, alors on les a vues parfois, même contre Denver, parfois c'était pas simple. C'était soit Anthony Edwards un peu seul contre le reste du monde et les autres autour qui faisaient de leur mieux. Mais par contre, sur les deux derniers matchs, il y a ce facteur X, à mon sens, qui est McDaniels, qui fait 20 et 23 points. Quand il est capable de sanctionner comme ça, de marquer une vingtaine de points, ça change tellement de choses pour Minnesota. Quand t'as Kat, qui est moins dérangé par les problèmes de faute, qui est capable d'apporter ses 20 points, Rudy qui met ses paniers, qui est relativement adroit sur la ligne aussi, pour moi, ils sont capables de surmonter ces interrogations-là, parce que même si Dallas défend bien, ils les ont les armes. Et donc, tant qu'ils arrivent à afficher leur niveau, le niveau qu'on a vu en défense, qui, je le répète, est quasi surnaturel, et c'est pas un accident, c'est comme ça depuis une bonne partie de la saison, je les crois capables de trouver ces solutions offensives. Ça va évidemment dépendre d'Anthony Edwards, hein. il va être attendu, il pourra pas refaire tout le temps des matchs ratés en attaque, en tout cas à la finition, comme le game 7, parce que derrière les autres, est-ce que les autres sont capables, est-ce que McDaniels est capable à chaque fois de compenser, est-ce que les autres sont capables à chaque fois de compenser, je sais pas, mais pour moi ils ont cette faculté là, on les a un peu trop ciblés là-dessus, même moi certainement, sur leur capacité à scorer. Et ouais, en ça je les trouve voilà, moi à l'heure qu'il est, je vois Minnesota sur toutes les questions qu'on s'est posées là sur qui aura la meilleure défense collective, je reste toujours sur Minnesota, même si Dallas m'épate franchement. De ce point de vue-là, Kyrie et Luka, je pouvais même pas concevoir qu'ils soient capables de faire ces efforts-là sur toute une campagne de play-off. Honnêtement, je les voyais trop concentrés sur l'attaque. Et là, ils ont été capables l'un et l'autre, que ce soit pour des raisons physiques, Luka a été diminué, ou consciemment, bah, d'abandonner un peu ce rôle de scoreur exceptionnel pour charbonner en défense et être plus playmaker comme Luka sur les derniers matchs où il n'a pas trop shooté, il a été dans la distribution. Donc je suis bien embarrassé là quand on va parler de nos pronostics. Honnêtement, c'est compliqué. Je donne peut-être une petite avance à Minnesota, mais c'est probablement parce que j'ai été plus marqué par ce qu'ils ont fait au tour précédent. Et c'est pas parce que tu bats telle équipe que tu bats forcément l'autre équipe qui arrive derrière. C'est pas mathématique, malheureusement.
Non, mais tu mets le point sur une autre clé de la série, je pense, c'est le scoring des roleplayers, même si je pense que pour les Timberwolves, c'est pas tant le manque de scoring, c'est vraiment le manque de qui va créer. Parce que, en fait, que McDaniels y mette des points, qu'il soit capable de mettre des points, ça, ça va être une clé, hein, McDaniels. Il y aura une clé entre McDaniels, il va être laissé ouvert, Derrick Jones Jr., il va être laissé ouvert. Qui de ces deux-là met le plus de points? Qui parmi les PG Washington, parmi tous les roleplayers, qui va mettre le plus de 3 points? Mais la question, c'est pas tant est-ce que McDaniels, enfin, c'est une des questions, est-ce qu'il va mettre des 3 points, mais c'est aussi surtout si Edwards il est pas en mesure de créer parce qu'il y a une trop grosse défense en face et que du coup il est obligé de lâcher la balle, est-ce que McDaniels il peut créer, tu vois? Et ça, là, par contre, c'est plus compliqué. Est-ce que McDaniels, balle en main, il peut aller provoquer cette défense ? Qui va provoquer cette défense balle en main si ce n'est pas Edwards ? Et il y a des options. Ça peut être Mike Conley, ça peut être 4, etc. Il y a des choses. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas. C'est plus ça, la question de qui va. Et la question peut aussi se poser à Dallas. Mais tu sais qu'à Dallas, ça peut défendre suffisamment fort pour tenir le choc plus ou moins d'une série défensive, contrairement à ce que Denver, je pense, ne pouvait pas faire. Denver ne pouvait absolument pas se permettre. Mais en plus de ça, sachant que ça tient le choc. Et derrière, si la balle elle sort des mains de Luka, tu sais que tu as Kyrie, et j'irais même jusqu'à dire il y a potentiellement PG Washington selon certaines situations. Et on l'a vu contre OKC, quand il s'est retrouvé en post-up, il a su créer, il a mis beaucoup de tirs dans le corner, et il a même su créer en dribble quand il est lancé, en fait. Quand il y a déjà eu un décalage, quand il y a un petit espace, là, il est capable d'attaquer ces espaces et de prendre un tir en flotteur parce qu'il est grand. Et c'est plus tant ça la question, c'est plutôt vraiment qui va créer à Minnesota si ce n'est pas Edwards.
Je pense que c'est effectivement l'une des grandes clés de cette série, et pour moi finalement la question elle tourne autour de Kat, parce qu'en fait Karl-Anthony Towns, on en parlait ce matin dans le CQFR avec Antoine, dans le match 7 il a été exceptionnel, il a été remarquable, et notamment à la passe, et puis je parle pas simplement de passe décisive, en fait c'est, j'ai plusieurs exemples de moments où il reçoit la balle et en fait il voit qu'il va être un peu contesté et fait la passe la plus simple, en fait juste la petite passe de décalage, et ça c'est une révolution, hein, parce que franchement pendant des années je maintiens que Karl-Anthony Towns était le All-Star le plus catastrophique à la passe de toute la ligue. Non mais franchement, c'était du genre, il y a pas un mec de son statut qui était aussi mauvais dans la lecture des prises à deux et dans le fait de fixer, ressortir. Et là, dans les derniers matchs, enfin notamment dans le dernier, je l'ai trouvé exemplaire vraiment. Et on en parlait encore le moment où Anthony Edwards est pas bon. Ben, c'est 4 qui porte l'équipe et qui fait les bons choix. Hein. Franchement, il fait qu'une seule faute vraiment débile sur tout le match. Potentiellement, je pense que c'est lui qui peut apporter de la création, parce qu'en fait, finalement, les autres joueurs, c'est à la marge. Tu vois, on sait bien que ils vont pas jouer Jaden McDaniels, il va pas jouer pick and roll sur pick and roll, ou on va pas faire l'isolation pour lui, pour qu'il crée pour les autres. Au pire, on va le laisser ouvert, et s'il pénètre, on va venir fermer la raquette, on verra bien ce qu'il sera capable de faire. Je pense que vraiment Kat a un énorme rôle à jouer dans cette série, ce qui est logique, hein, finalement. C'est un all-star, c'est potentiellement une superstar, mais ça va être intéressant, parce qu'effectivement je pense qu'Anthony Edwards, là, Dallas, même s'il a été très gêné dans le dernier match face aux Nuggets, Dallas a vraiment les armes pour lui compliquer la tâche, plus je pense que ne pouvait le faire Denver sur la pure présence physique. Bien sûr, Kentavious Caldwell-Pope est un super défenseur, mais il n'est pas imposant. On a vu la dimension physique d'Edwards, des fois tu peux rien faire, c'est un tank.
Et d'ailleurs, le seul match où Edwards a vraiment été gêné, le game 7, c'est celui où les Nuggets ont enfin mis Aaron Gordon sur lui, en fait. C'est Gordon qui allait défendre sur lui, et Edwards a eu pas du tout le même impact. Sauf que derrière, si c'est Gordon qui se charge d'Edwards, bah Kat, il a la voie libre et il a puni. Et pardon, Shai, je vais te laisser la parole, mais juste sur Kat, parce que ça me fait penser à quelque chose. Il y a quand même, contre Denver, Kat, il avait une vraie mission défensive. On lui a dit, tu vas prendre Jokic. Ce qui peut, en plus, si tu prends l'ego du bonhomme, lui, il peut le voir vraiment comme un truc en mode, on me fait confiance, c'est moi qui vais avoir Jokic, tu vois. Ça t'investit dans une mission. Quand on joue au basket, quand tu as une vraie mission claire défensive, ça te met dans un rythme. Ça te met dans un rythme, ça te met dans un mood, en fait. Parce que tu sais que tu fais une tâche qui est pour l'équipe. C'est pas comme aller marquer des paniers, tu vois. Il y a vraiment, tu sais que t'as un rôle, et ça te lance dans ton match. Il avait ça contre Denver. Il y avait ce truc, mission collective. Et je pense que ça a influé peut-être que je me trompe, mais je pense que ça a eu une influence sur tout le reste de ce qu'a fait Kat. C'est, je suis dans mon mood de, OK, c'est moi qui ai Jokic, j'ai un rôle pour l'équipe. Donc pareil, en fait, quand je suis en attaque, je suis dans cette même état d'esprit de, j'ai un rôle pour l'équipe et j'attaque pour l'équipe et je force pas les choses. Dans cette série contre Dallas, l'équipe est construite bien différemment. L'équipe de Dallas, il ne va pas avoir ce rôle défensif. Enfin, il aura évidemment un rôle défensif, mais il ne va pas avoir une mission claire. Il va être sur qui ? Sur Derrick Jones Jr. ? C'est un mec qui va devoir laisser seul à 3 points, tu vois. Ou il va être sur Gafford, mais il n'y aura pas une vraie mission, tu vois. Et du coup, j'ai hâte aussi de voir l'attitude de Kat, de voir est-ce que sans cette mission défensive très claire, est-ce qu'il aura encore ce réflexe de se dire « Ah, je joue dans le collectif, est-ce que je garde cette même rigueur, tu vois, est-ce que je respecte ce besoin du collectif, je laisse le jeu venir à moi. C'est ça qui m'a marqué dans la série en fait contre Denver, c'est que pour une fois Kat, il a vachement laissé le jeu venir à lui. Ah là, j'aimerais sur moi, j'attaque, je suis ouvert. Mais tu vois, je ne viens pas forcer mon post-up absolument. Je ne viens pas forcer mon drive absolument. Je ne prends pas mon tir débile à 3 points juste parce que je pense que.
Ça a toujours été son problème. Hein. Ça a toujours été son souci.
Et notamment en play-off, ça a été un gros problème. Gros problème. La série contre les Grizzlies, si elle est aussi dégueulasse, c'est parce que Kat, il est dégueulasse. Et je suis désolé, ça paraît vénère, mais parce que je l'ai trouvé aussi excellent dans cette série contre Denver. Et là, contre Denver, il a vachement laissé le jeu venir à lui. Intimement, je suis un peu convaincu que c'est lié au fait qu'il avait une mission défensive et j'ai hâte de voir est-ce que l'enjeu fait que Kat peut se dire ok, ben là, moi, mon rôle, j'ai peut-être plus rôle défensif, mais faut pas que j'attaque n'importe comment en fait. Faut pas que je m'empile sur la défense ou juste je m'entête à prendre des tirs à 3 points parce que j'ai l'impression qu'il y a personne qui crée du jeu, tu vois. Et ça, je pense, c'est pareil, ça rejoint ce que tu disais, Théo, c'est vraie grosse clé, quelle sera l'attitude de Kat.
J'aurais eu peur il y a pas si longtemps. Et depuis qu'on voit Anthony Edwards un peu mic'd up, où on l'entend parler, communiquer avec les autres, et il communique beaucoup avec Kat, leur relation au début, je pense qu'elle n'a pas été si simple que ça, parce que Kat, il avait en tête le fait que c'était le franchise player, ça l'a été pendant des années, avec un succès très limité certes, mais on voyait le talent, hein, il est difficile à nier le talent offensif de Kat. Et là, j'ai l'impression qu'il y a, ne serait-ce que sur le plan vocal, il y a du leadership chez Anthony Edwards. Il parle à tout le monde, même aux vétérans. Tu le vois parler avec Mike Conley. Il replace Mike Conley, quoi, alors que Mike Conley, il a quel âge, 36, 37 ans maintenant. Et il le fait avec Kat, il le garde impliqué, même après les matchs, sur les conférences de presse, quand il l'a un peu recadré en lui disant « De toute façon, les matchs où tu prends 5 fautes rapidement, on peut pas gagner. Si tu ne te disperses pas, on gagne les matchs. » J'ai plus la formulation exacte, mais c'est un peu ça. Et j'ai l'impression que, alors tu as raison, hein, ça va être intéressant de voir s'il aura une mission défensive, s'il arrivera à ne pas s'éparpiller. Mais j'ai le sentiment qu'il est dans un état d'esprit positif. Et c'est un joueur de mood un peu. Hein, c'est un joueur de. Parfois, il a envie de prouver des choses qu'il n'a pas besoin de prouver. Il a envie de se prouver à lui-même qu'il est ce joueur-là. Et là, il n'a plus besoin d'être ça. Il a besoin d'être une option secondaire, mais importante. Un joueur qui utilise sa taille pour défendre, et il faut le répéter, t'as raison, il a posé des problèmes, des challenges à Jokic qui a dû s'employer pour marquer ses points à chaque fois, et là il va aussi être déterminant. J'ai moins peur qu'à une époque, les gens qui nous suivent depuis des mois ou depuis quelques années, ils savent qu'on a été un peu critique envers Kat parfois pour les fautes un peu bêtes, pour sa propre visualisation du joueur qu'il est. Là, j'ai le sentiment qu'il a la présence d'Edwards, la présence de Gobert aussi, maintenant qu'ils s'entendent aussi assez clairement mieux qu'à une époque. Hein. Je pense que ça fait une différence aussi par rapport à l'année dernière. Je pense que Kat est capable de rester concentré 4, 5, 6 matchs. Au pire, il y en a peut-être un ou deux sur lesquels il sera moins performant, mais c'est fou, je ne pensais pas le dire un jour, mais j'ai l'impression que là, ça y est, Kat est sur son arc de rédemption et qu'il est capable de contribuer au fait que Minnesota puisse aller en finale.
Non, c'est sur Kat et sur la concentration, je pense que ça va être effectivement déterminant pour, dans un autre lit, c'est le rebond en fait, parce que Dallas est l'une des équipes qui sont encore en lice, c'est la meilleure attaque, c'est la meilleure équipe au rebond offensif, et c'est un rebond offensif qui à la fois, il y a Derek Lively, il y a Gafford, mais il y a aussi les autres joueurs qui viennent contribuer au rebond offensif, et ça va être intéressant de voir le degré de concentration de Kat, et aussi de voir tout de suite sur qui il défend effectivement, parce que là on est parti du principe que c'était sans doute Gobert qui allait être sur Gafford ou sur Lively dans un premier temps, mais je suis pas si sûr en fait. Ça va vraiment être intéressant de voir, vu ce que Kat a pu montrer face à Jokic, si Minnesota ne va pas finalement se servir de Gobert, un petit peu comme dans la série précédente, pour être sur les aides et pour sécuriser ce rebond, ou dans le sens où, là, si tu défends sur un mec qui est au large et que tu es juste dans les aides, il faut que tu ne sais pas forcément d'où le rebond va venir, donc c'est plus dur de faire les écrans en retard. C'est sur ces aspects-là, je ne sais pas si Kat a encore le degré de concentration que ça demande, mais dès les premières secondes, ça va être intéressant de voir justement quelle est l'organisation défensive de Minnesota, sachant qu'on sait aussi que parfois les équipes préfèrent pas sortir toutes leurs armes d'un coup, voire rester parfois sur commencer les matchs ou le premier match avec des dispositions un peu classiques pour voir un petit peu quel problème ça peut poser à l'adversaire avant de bouger dans leurs propres options. Mais ouais, Kat, il va être déterminant dans cette série. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que finalement, la grande force de Luka Doncic, mais il y en a plusieurs, c'est sa capacité finalement à pouvoir rentrer dans la raquette quand il veut, où il veut. Il n'y a jamais eu non plus une défense face à lui avec un second rideau aussi massif que celui des Wolves. Ça va être intéressant de voir comment il arrive à manœuvrer tout ça. Après, voilà, c'est un joueur d'un tel niveau que j'imagine qu'il ne va pas être non plus, ça ne va pas le rendre fébrile plus que ça. Mais c'est vraiment la partie d'échec qui va continuer d'un côté comme de l'autre. Et il faut le saluer. Hein. Chris Finch a fait un travail extraordinaire en saison régulière, en play-off. Et même chose pour Jason Kidd. Franchement, la série face au Thunder, on peut se dire aussi que quelque part, Jason Kidd a en partie gagné la partie d'échec face à Mark Degno. En tout cas, c'est son équipe qui est sortie victorieuse. Et là aussi, je pense qu'on va se régaler d'un match sur l'autre sur les adaptations. Sachant que tout à l'heure, pardon, je fais un peu long, là, on parlait d'épaisseur, c'est de leur longueur de banc. Mais Dallas aussi a un banc très, très long. Et on a vu que Kidd n'hésitait pas par exemple, il a sorti Jaden Hardy tout d'un coup, alors qu'on ne l'avait pas du tout vu. C'est Dante Exum qui s'est retrouvé sur le
banc. Parce que Hardaway Junior est nul.
Oui, ça c'est vrai, mais Dante Exum aussi a complètement disparu de la rotation. Donc voilà, il y aura différentes options à disposition pour J-Kid. Ça va vraiment être intéressant.
J'ai une question pour vous, du coup, parce que tout à l'heure, on parlait de ça, mais à la place de Jason Kidd, au niveau de la défense sur Anthony Edwards, vous faites comment, c'est qui dessus, comment... C'est une des questions que je me pose aussi parce que c'est un bestiau, quoi.
Réponds d'abord, Théo. Non, parce que du coup, ça va m'entraîner une autre question. Vas-y, t'inquiète.
Moi, je pense que c'est Derrick Jones Jr. qui risque de commencer sur Anthony Edwards pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce qu'il n'a pas le physique de PJ Washington, mais par contre, il a la mobilité, la vivacité, ouais. Il est très long. Moi, je pense que ça risque d'être la première option. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine.
Justement, moi aussi, ça entraîne justement mon autre question. Parce que je pense aussi que c'est Derrick Jones Jr. qui va commencer sur lui. Et du coup, Gafford, il va être sur 4. Parce qu'il faut quand même mettre un grand sur 4. Et ça amène mon autre question, c'est est-ce que les Mavs, ils vont oser mettre Luka Doncic ou PJ Washington? Et je pense que ça sera l'un des deux qui sera sur Rudy Gobert.
Rudy, ouais.
Parce que je pense qu'il y aura une vraie pari de se dire Rudy, il ne va pas nous tuer en attaque. Il y aura ce pari de se dire regarde, tu auras constamment un match-up avantageux, mais on n'a pas peur. Et en plus, si tu viens de toute façon poser un écran pour Edwards, je pense qu'Edward, c'est ça, il va demander. Si c'est Lucas sur Gobert, et je pense que rien que pour ça, je mettrais PG Washington sur Gobert. Je vous explique. Donc, du coup, Derrick Jones Jr., il est sur Edward. PG Washington, il est sur Gobert. Edward, il a besoin qu'il y ait un switch. Alors, il peut toujours appeler 4 pour jouer un pick and roll et se retrouver face à Gafford. Mais si tu appelles Rudy Gobert, qui est le meilleur poseur des grands des Timberwolves et le mec qui roule le mieux, s'il y a un switch, Derrick Jones Jr., je pense qu'il est assez long, assez athlétique pour plus ou moins gêner un poil Gobert sur une passe lobée, tu vois, suffisamment pour faire acte de présence. Et derrière, PJ Washington, il se retrouve sur Edwards, c'était plutôt bien, tu vois. Si tu mets Luka sur Gobert, là, bon, Edwards, il va juste demander à ce qu'il y ait Luka face à lui et il va essayer de travailler Luka en vitesse. Et d'ailleurs, au passage, même sur ça, pour rejoindre du coup sur ta question de la défense sur Edwards, Luka, évidemment, il s'est fait prendre en vitesse par Shai Gilgeous-Alexander plein de fois. Il se fait crosser et ça arrivera pareil face à Edward. Mais il est grand. Il est grand, il a des bonnes jambes, il est puissant. C'est évidemment pas un bon défenseur, mais en fait, il est athlétiquement chiant. Tu vois, il est physique. Et Edward, il est petit. Ça se voit pas, mais Edward, il est petit. Ça se voit pas. C'est Nakayane, un habitué de la late session qui m'a donné la taille d'Edward. J'avais halluciné, je crois qu'il fait 1,91.
Non.
Ou 1,93 max. Vous savez ça?
Je cherche un temps.
Il fait 1,93, je crois, Anthony Edwards.
Ouais, 1,93, ouais, effectivement.
1,93, tu vois, il paraît beaucoup plus grand, mais il fait 10 cm de moins que Luka, quoi.
Parce qu'il est large, il est hyper.
Oui, parce qu'il est large, quoi. Et il est très aérien. Il est... Ça ne le pénalise pas de faire 1,93 m, ouais. Encore moins dans cette NBA. Mais il a 10 cm de moins que Luka, ou un peu moins de 10 cm, 8 cm de moins que Luka Doncic. Il y a des trucs. Et donc, du coup, pardon, pour répondre à la question, je pense que c'est Derrick Jones Jr. Mais du coup, il y aura vrai, je pense, du côté des Mavs, un pari de se dire Gobert, en attaque, il ne va pas nous tuer, en fait.
Oui, ça va être. J'ai hâte de voir ça parce que de l'autre côté du terrain, Gobert est vraiment. Il a montré d'ailleurs dans le dernier match face aux Nuggets en deuxième mi-temps, il a complètement perturbé le jeu Jokic-Aaron Gordon ou le nombre de fois où ils sont venus perturber sur les passes lobées. On sait que c'est une grosse partie du jeu aussi des Mavs avec Derek Lively, avec Daniel Gafford, cette passe lobée là. Et on a vu à quel point les Wolves pouvaient enlever de ça de ton playbook à condition d'être suffisamment rigoureux dans l'application des principes de Chris Finch. Mais c'est pour ça, ça va être, je pense que ça va être le type de série où de match en match il va vraiment y avoir des ajustements. Moi je serais pas étonné effectivement que du côté de Dallas le line-up change parfois d'un match à l'autre en fonction de ce qui se passe sur le terrain. La question, ce que je sais pas par contre du côté de Dallas, c'est ce qui m'intrigue un petit peu, c'est est-ce que Dallas peut avoir une vraie option à essayer de jouer small ball par moment pour contrecarrer la taille de Minnesota. Je sais pas si c'est une option viable. En tout cas je me demande si Jason Kidd le tentera un moment.
Et c'est là où l'absence de Maxi Kleber, elle peut coûter très cher. Ouais. Parce que tu vois, ils peuvent gêner les passes lobées, les Timberwolves. Et c'est pas tout à fait la même configuration que quand tu gênes les passes lobées du jeu à deux Jokic-Gordon. Là, c'est vraiment passes lobées, tu vois, plein axe, parce que tu as ton playmaker qui arrive, qui déboule en drive, et tu as Gafford qui déboule. Et du coup, si tu veux vraiment gêner la passe lobée, tu vas laisser constamment des tirs dans les corners, genre vraiment constamment. Et ça revient un peu à ce côté de qui va mettre le plus de trois points entre McDaniels, entre Jones Jr. Le Thunder a perdu parce que Jones Jr. il a sorti un 3 sur 3 à 3 points en première mi-temps. Mais est-ce que Jones Jr. il est vraiment si fiable que ça? Est-ce que Jones Jr. sur toute une série contre Minnesota, il peut mettre autant de tirs dans le corner? Est-ce que Washington, il aura la même adresse dans le corner? Si ces gars-là sont à droit, je pense vraiment que les Mavericks passent. Si Jones Jr. et Washington, ils mettent leurs tirs à 3 points dans le corner, je pense que là il y a Dallas a vraiment l'avantage total, mais c'est pas dit qu'ils les mettent déjà, c'est vraiment pas dit. Et j'en reviens à Kleber, je pense qu'avec Kleber tu pouvais à la fois jouer small ball tout en ayant ce mec qui met des tirs à 3 points et sans lui tes options à 3 points c'est donc des mecs. Je pense que Washington il est assez fiable mais tu sais jamais, et Jones Jr. et Hardaway Jr. c'est beaucoup plus aléatoire, tu vois. Tu sais pas qui t'as. Au moment où le match commence, tu sais pas ce qui va se passer. Tu vois, il y a des matchs où Joe Junior, Minnesota, ils vont peut-être le laisser ouvert et il va faire 1 sur 8 à 3 points, tu vois. Et dans ce cas-là, tu vas continuer de le laisser ouvert et ça va être vraiment une clé là-dessus. Moi, je t'attendais de dire qu'il devrait jouer small ball, pardon, mais sans Kleber.
C'est vrai, c'est vrai qu'on n'y pensait plus, mais Kleber sur la série contre les Clippers, là, il y a un match où il fait 5 sur 7 à 3 points. Enfin, il a tué les Clippers. Par cette capacité à s'écarter, c'est pas non plus un mauvais joueur à l'intérieur. Enfin, c'est bon. Après, les absents sont forcément par définition, ils sont pas là et ils ont très bien réussi sans lui. Mais là, vu que c'est un autre profil d'équipe, ça peut avoir son importance. Je suis d'accord avec toi.
Allez, petit pronostic pour finir cette partie sur.
Attends, juste au passage sur Kleber, il se pourrait qu'il revienne pendant la série.
Il est pas forfait.
C'est pas impossible. C'est pas impossible.
C'était quoi sa blessure déjà?
C'est quand même l'épaule.
Ouais. Ah ouais, c'est l'épaule, ouais.
Quand t'as un shooter, c'est pas facile, hein, de revenir. Tu dis, tu reviens, il faut que tu mettes les tirs tout de suite.
Si il reviendra, ça sera certainement pas au début, quoi. Mm. Ça serait plutôt fin de série, quoi.
Allez, petit pronostic pour cette série. Allez, Shai, je te donne la parole en premier, vu que c'est Antoine qui s'est mouillé tout à l'heure.
Allez, ce coup-ci... Bon, je vois Minnesota passer quand même. C'est juste le score qui me... sur lequel je m'interroge, je vais tenter 4-2 Minnesota, voilà.
Moi, je vais dire 4-3 Dallas, et je vais parier sur le fait qu'au final, Doncic et Kyrie, ça sera too much en attaque pour les Wolves. Donc, je vais dire 4-3 Dallas, vraie série serrée, Game 7 à Minnesota, gagné par les Mavs.
Ouais, moi je vais dire aussi 4-3 Dallas, un petit peu pour les mêmes raisons qu'Antoine, dans le sens où c'est un peu l'objet du MOOC spécial défense là qu'on vient de rééditer. On sait qu'on a besoin aujourd'hui d'une défense très forte pour pouvoir espérer être champion ou du moins aller très loin, mais que finalement à défense égale, c'est quand même l'équipe qui a le plus gros potentiel offensif qui fait la différence. Donc je pense qu'effectivement sur le papier, je mettrai une pièce pour Dallas de ce côté-là, mais ouais, en tout cas je serais étonné que ça aille pas au bout, je serais étonné si ça devait s'arrêter avant les 7 matchs.
Moi, vu que je ne mets pas Minnesota et Dallas sur un plan d'égalité, parce que tu parlais de l'égalité défensive, pour moi, Minnesota... Je comprends, hein, j'entends, ils sont capables de défendre presque aussi bien, et c'est déjà incroyable, mais je pars dans l'idée que Minnesota va avoir un tel niveau défensif, vu ce que j'ai vu là, qui m'a traumatisé, que oui, l'attaque des Mavs est exceptionnelle, surtout avec les deux Lascar qui sont capables de faire un tas de trucs, mais pour moi, leur défense est tellement supérieure que je les crois capables de... Alors 4-2, c'est peut-être optimiste, du coup, c'est vrai que ça ressemble à une série en 7 ultra serrée. On a vu On a vu contre Denver et même contre Casey, c'était assez serré. Mais allez, je reste sur mon 4-2 Minnesota et je suis tout seul sur mon île avec les Wolves. Et ça me va très bien.
Mais je serais pas du tout étonné, par contre, que tu aies raison, hein, Chaï. Et effectivement, juste pour repréciser, je dis pas que la défense de Dallas est aussi bonne que celle de Minnesota. Simplement, j'ai l'impression que c'est des défenses élites. Voilà, je les mettrais dans ce même groupe, même si effectivement la défense de Minnesota est encore plus forte, c'est clair. Nous, de toute façon, donc, premier match ce soir de finale de conférence Est. Boston à domicile face aux Pacers, c'est ce soir mardi. Demain mercredi, premier match de la série des Wolves, donc qui recevront Dallas pour le premier match de leur série à eux. Ce soir, vous pourrez retrouver aussi la Late Session en live sur Twitch. Venez discuter avec Shai. On dit qui y aura avec toi ou on le garde comme surprise? Parce qu'il y aura un invité. Ah, ouais.
Comme tu veux. Non, gardons la surprise. Venez vous connecter pour voir qui est là. Ouais, c'est pas un joueur NBA, c'est pas un.
Mais presque.
C'est pas une star. C'est presque. Venez voir à 23h et quelques possible, j'ai 5 petites minutes de retard ce soir aussi, mais venez discuter avec nous comme d'habitude, pas de sujet en particulier, on discute des playoffs, d'autres choses, de ce que vous voulez, mais voilà, soyez là.
Voilà, et puis nous, de toute façon, on se retrouve demain matin dans le CQFR pour débriefer ce premier match de finale de conférence. N'hésitez pas à nous dire, à nous donner vos pronostics pour chacune des séries, nous dire voilà, s'il y a des choses que vous pensez qu'on a ratées dans cette petite preview. On vous dit à très vite, profitez des playoffs, nous on kiffe à fond, et on vous dit à très vite. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Is out there, and it's either play or get played.